Bonjour et bienvenue dans Le Lien, le podcast qui décrypte les pratiques du bien-être. Je suis Anne, je suis naturopathe et passionnée de santé holistique, et dans ce podcast, je reçois chaque semaine un ou une invitée qui me parle de sa pratique. Naturopathie, EMDR, hypnose, sophrologie, etc. Le but est de vous permettre de comprendre exactement ce que sont ces pratiques et ce qu'elles peuvent apporter dans votre vie. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Jean-Michel Guy, praticien en médecine traditionnelle chinoise et ostéopathe. Jean-Michel a partagé lors de cet entretien ses 40 années d'expérience dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise. Un entretien particulièrement riche et intéressant, et du coup aussi un peu plus long que d'habitude. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Anne.
Bienvenue. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu, présenter ton parcours ?
D'accord. Eh bien, donc voilà, je m'appelle Jean-Michel Guy. Donc, mon parcours, j'ai commencé par faire des études de kinésithérapie et à la fin de la troisième année, on est venu nous parler du massage traditionnel chinois. Et en écoutant cet homme parler de philosophie, notamment chinoise, entre ciel et terre, de santé, ça a été un choc énorme, comme si j'avais déjà entendu ça quelque part. Et du coup, à l'époque, je souffrais de très très graves problèmes de peau. Et j'ai demandé à cet homme s'il pouvait faire quelque chose pour moi et il m'a guéri en une séance d'acupuncture. Alors que ça faisait 8 ans que j'étais suivi dans un hôpital parisien, voilà. Et donc, ça a été un bouleversement pour moi. Et donc, dès que j'ai fini mes études de kiné, à 21 ans, je me suis retrouvé dans une école de médecine chinoise. J'ai suivi ces études pendant 4 ans, mais je pense que par manque de maturité, de travail, j'ai un petit peu laissé tomber. J'ai continué, donc après, je me suis installé, j'avais un cabinet. Et au bout de quelques années, je me suis associé avec un kiné de l'équipe de France d'athlétisme et qui, quand il est arrivé dans ma cabinet, faisait des techniques très particulières. Je me disais, mais c'est quoi? Et en fait, il faisait de l'ostéopathie. Du coup, on est devenus très amis et il m'a inscrit dans une école. C'est carrément lui qui m'a inscrit. Et cette école d'ostéopathie, en même temps, nous faisait faire un petit peu aussi de l'énergétique chinoise et ça m'a permis de recoller donc à la médecine chinoise et là j'ai plus lâché. Ensuite j'ai refait 2 écoles importantes, voilà, la sphère à Aix. Ensuite j'ai travaillé pendant des années avec quelqu'un qui sort un peu des sentiers battus qui s'appelle Bruno Repetto et c'est avec lui vraiment que je me suis mis au travail des aiguilles parce que j'avais une grande appréhension. Et petit à petit du coup j'ai commencé à faire un mixte au milieu de tout ça, essayer de comprendre entre l'ostéopathie et la médecine chinoise parce que l'ostéopathie structurelle et mécanisme ne convenaient pas vraiment. Et très très vite, je me suis orienté de plus en plus sur une pratique purement énergétique. Ensuite, j'ai rencontré le Qigong et donc je me suis mis vraiment à étudier le Qigong. Et là, ça fait 24 ans que je travaille avec un maître taoïste à Paris, vraiment dans une qui est un grand grand maître. Et dans un cours de Qigong, j'ai un ami vétérinaire qui trouvait que quand je parlais de médecine chinoise, c'était intéressant. Eux, ils étaient toute une groupe de recherche en acupuncture pour animaux. Ils m'ont demandé d'intervenir et de fil en aiguille, ils m'ont poussé, et j'ai fini par accepter de monter ma propre école de médecine chinoise et que j'ai tenue pendant 15 ans. Je viens de l'arrêter parce que j'ai 63 ans et voilà, c'était quand même beaucoup de travail. Et donc j'ai enseigné donc une formation que j'ai animée seul pendant 15 ans et avec en amenant quelques étudiants au diplôme national parce qu'il faut savoir que la médecine chinoise est en train de beaucoup d'années se structure, essaye de s'organiser et donc les études maintenant sont vraiment intenses avec 5 ans d'études minimum et les fédérations se sont regroupées pour animer pour maintenant présenter un diplôme national et tous ceux qui ne sont pas ni kinés, ni médecins, ni ostéopathes sont obligés de faire en plus parallèlement 2 ans de ce qu'on appelle d'études du corps humain, on peut dire d'études de physiologie humaine, à peu près pour avoir un niveau de, on peut dire presque d'infirmier et ils doivent passer une épreuve aussi parallèle à leur diplôme de médecine traditionnelle chinoise. Donc voilà, et donc aujourd'hui, depuis quelques années, dans mon cabinet, j'ai orienté ma pratique et où je travaille un peu avec tous ces outils. Voilà un peu résumé. Ça fait à peu près 20-25 ans d'études et d'ailleurs je continue à être étudiant parce que je suis un passionné, quoi.
Est-ce que tu peux définir ce qu'est la médecine traditionnelle chinoise, ce qu'elle comprend, ce qu'elle
Oui. Alors, la médecine traditionnelle chinoise, il faut quand même savoir que elle est ancestrale dans le sens que on pense qu'elle a à peu près 400 000 ans d'historique. Donc, c'est qu'elle, voilà, elle s'est beaucoup appuyée notamment sur l'observation. Elle a été très empirique et au fil du temps, elle s'est éclairée. On peut dire que le postulat majeur de la médecine traditionnelle chinoise, c'est l'homme entre ciel et terre. C'est-à-dire que pour eux, c'est très très clair. Ils définissent la santé comme l'harmonie entre ciel et terre, et ils définissent la maladie ou la pathologie comme une disharmonie entre le ciel et la terre. Et donc c'est pour ça que si on prend la philosophie chinoise, parce qu'elle s'appuie beaucoup de la médecine chinoise s'appuie beaucoup sur la philosophie, ils nous disent que le ciel a d'abord été créé avant la terre. C'est pour ça que dans tous les textes traditionnels de médecine chinoise, la première phrase majeure, c'est le ciel confère la vertu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le ciel qui conditionne, on peut dire, le temps et l'espace avec la loi des saisons, par exemple, et que les Chinois nous expliquent qu'on ne peut pas vivre, qu'on ne peut pas manger, qu'on ne peut pas avoir les mêmes rythmes, la même hygiène de vie en automne, en hiver, au printemps, en été. Ensuite, la loi des saisons, c'est la loi du ciel, c'est la loi jour-nuit. Ils sont très très clairs par rapport à ça, puisqu'ils définissent, il y a deux polarités que tout le monde a entendu parler, qui serait un peu long à expliquer, ce que le fameux yin-yang des Chinois. On peut dire, pour résumer, c'est vraiment un résumé, que le yin est lié à la terre et le yang est lié au ciel. Et donc, quand ils nous disent que le ciel confère la vertu, ils nous invitent, par exemple, au niveau alimentaire, à ne pas manger pareil selon les saisons, à ne pas avoir les mêmes rythmes de sommeil selon les saisons. Et donc, ils ont vraiment défini énormément de règles d'hygiène de vie. Et que c'est, et tu connais bien ça, c'est comme la perturbation de ces règles fondamentales qui petit à petit va nous déséquilibrer. Ensuite, la médecine traditionnelle chinoise bien nous explique que nous ne sommes pas un corps de matière, mais que nous sommes un corps vibratoire, un corps de fait d'énergie. Et à ce titre, ils ont petit à petit compris qu'il y avait un réseau qui nous parcourait, un réseau donc de méridiens, et que ces méridiens, pour moi, c'est un système absolument magnifique, puisque de chaque organe, de chaque viscère, si on prend par exemple, on va prendre l'exemple, en ce moment on est dans l'énergie du cœur, de l'organe cœur, il y a une branche profonde qui part et qui suit un trajet très particulier, qu'ils sont parfaitement décrits. Et ensuite, à un moment donné, dans une zone, à un point, ce méridien du cœur va sortir sur la peau, ça devient ce qu'on appelle la branche périphérique, et elle va suivre donc un trajet très très précis, par exemple, qui va partir de l'aisselle jusqu'au petit doigt en ce qui concerne le méridien du cœur. Et petit à petit, les Chinois ont organisé leur compréhension des systèmes et de comprendre que ces méridiens sont comme des résonateurs. C'est eux, quelque part, qui vont capter les énergies du ciel et de la terre. En médecine chinoise, la climatologie joue un rôle absolument fondamental. Nous sommes interdépendants de six climats fondamentaux que sont, par exemple, l'humidité, le froid, la sécheresse, la chaleur, le vent, voilà. Et que comment nous, humains, nous devons nous adapter à ces climats et comment ces climats peuvent venir nous perturber. Lorsqu'ils parlent de climat, ils peuvent aussi parler de climat émotionnel, puisque les Chinois nous expliquent que tout notre système émotionnel est relié avant tout à nos organes viscères, et que par exemple le foie gère la colère, que le poumon gère la tristesse, etc. Et qu'en même temps, pour les Chinois, les organes vont gérer toute notre activité psychique, l'organisation de notre psychisme. Et par exemple, je te donne un exemple, si la rate est perturbée, et bien sur le plan psychique, ça va donner des gens qui vont beaucoup ressasser, qui vont ruminer, etc. Conclusion, ils ont petit à petit commencé vraiment à organiser cette structure de l'homme entre ciel et terre, et pour ça ils ont mis au point des outils, j'aime pas le mot diagnostic pour pas se fâcher, de bilan énergétique qui va nous permettre petit à petit par notamment ce qu'on appelle la prise des pouls et l'examen de la langue et toute une anamnèse, de comprendre les déséquilibres énergétiques de la personne et comment nous allons pouvoir y remédier. Voilà ce que je pourrais dire en première intention et peut-être à travers tes questions, peut-être aller un peu plus loin si tu le souhaites. Ouais.
Parmi les pratiques qu'on connaît, ça comprend plusieurs pratiques. Non, il y a l'acupuncture.
Voilà. Tout à fait. La médecine traditionnelle chinoise, en fait, comporte 8 piliers fondamentaux. On appelle ça les 8 piliers. Donc, que sont effectivement l'acupuncture, c'est-à-dire l'usage des aiguilles. Ces usages des aiguilles vont nous permettre de réguler notamment les systèmes méridiens et d'envoyer des informations jusqu'au cœur des organes, puisque par le système des branches externes et des branches profondes. Le deuxième outil très important, c'est le massage traditionnel chinois qui s'appelle le tuina, qui sont des techniques justement qui ont la même vision, c'est-à-dire toujours la liberté de la circulation du qi. Et ce que j'ai oublié de préciser quand même qui est très important, dans la vision chinoise, ce qi, cette énergie, a la particularité de permettre la circulation du sang. C'est-à-dire partout où le qi circule, le sang va circuler et comment une stagnation de cette énergie fondamentale va aussi pouvoir nous entraîner petit à petit dans des stases aussi circulatoires. Le troisième outil, c'est la diététique, qui joue un rôle très très important. La diététique chinoise est très particulière parce qu'elle tient compte de la nature énergétique des aliments. Par exemple, un aliment va avoir une nature chaude ou une nature froide ou une nature tiède ou une nature humide, enfin, etc. Ensuite, nous avons comme autre outil donc le Qigong et le Tai Chi Chuan, qui font intégralement partie pour eux de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, le fait de pratiquer ces mouvements que tout le monde connaît ont aussi pour but cette libération de l'énergie dans les méridiens et donc la réorganisation de tout notre système organe-viscère. Ils considèrent aussi dans cette médecine-là donc la pharmacopée chinoise. Et actuellement, je suis en train de me former. On a la chance en France d'avoir un des plus grands maîtres de la pharmacopée chinoise qui s'est installé à Strasbourg depuis une vingtaine d'années, dont j'ai fait la connaissance. Et là, donc c'est les plantes chinoises et qui vraiment c'est quelque chose qui se développe énormément avec vraiment des résultats assez patents. Et ils ont à leur outil une compréhension de la nature énergétique des plantes et qu'ils associent souvent, des fois dans une préparation, on peut avoir 7-8 plantes qui vont tous agir. Par exemple, il y en a une qui va agir sur le yin du rein, l'autre qui va agir pendant ce temps-là sur tiédir, etc. Enfin voilà, donc la pharmacopée chinoise. Et ils utilisent aussi, ça fait partie, le feng shui, c'est-à-dire la rééquilibration de l'habitat, parce que pour eux, notre habitat peut être aussi source de pathologies. Et donc, si la médecine traditionnelle chinoise comprend absolument tous ces piliers fondamentaux. Voilà.
Ouais, c'est vraiment une pratique totalement holistique.
Voilà. Ah oui. Ça, c'est vraiment, je te dis, ils placent vraiment le débat. Pour eux, c'est quand même juste incroyable. Plus j'avance depuis 40 ans dans cette approche, de se dire que simplement la maladie ou la pathologie ou le déséquilibre énergétique est juste la discordance ou la disharmonie entre ciel et terre. C'est-à-dire que c'est pour ça que au sein de mon cabinet, j'essaye de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogie. Voilà, je me contente pas d'essayer que de traiter les gens. J'essaye de leur enseigner quelques bases fondamentales. On peut dire ce que j'appelle d'hygiène vitale, pour essayer qu'ensuite ils puissent eux-mêmes prendre soin de leur santé et d'essayer de se, parce que c'est eux qui vont participer à la rééquilibration de leur système, quoi. Donc ça, que ça soit l'ostéopathie biodynamique que je pratique ou la médecine traditionnelle chinoise, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai écouté tout ce que tu proposes, cette vision effectivement holistique et toujours les Chinois, parce qu'on parle beaucoup cœur âme esprit d'une médecine, voilà, d'un système énergétique. Les Chinois, eux, parlent des San Pao, des trois trésors. Ces trois trésors fondamentaux, pour résumer, parce que ça, je pense que ça me paraît important quand on veut présenter la médecine traditionnelle chinoise. Il parle du jing. Le jing, c'est quoi? C'est que dans la vision des Chinois, au moment de notre conception, nous recevons un potentiel énergétique de nos parents qui est proportionnel à l'état énergétique de nos parents. C'est un peu l'image d'une lampe à huile qu'on remplit d'énergie vitale et Voilà. Et avec cette énergie, pour eux, on va, au moment de la conception, on va allumer cette lampe à huile, et en fonction de notre façon de fonctionner, eh bien, on va plus ou moins consommer d'huile. C'est comme si je roule en Ferrari ou en deux chevaux, ça va pas être la même chose. Et donc, pour eux, l'idée, c'est de préserver ce jean qu'ils appellent le jean inné. Et pour eux, c'est très clair qu'on est programmé pour un nombre d'années de vie au départ. Et en général, la tradition, notamment du kicking, etc., parle qu'on serait programmé pour une centaine d'années à peu près. Et on voit bien que l'espérance de vie des, même des Français, on parle de 72 et on est tout fier, mais bon, voilà. Et ensuite, donc, ce qu'ils disent, c'est que tous les jours, je vais pouvoir, par ma respiration, énergie de l'air, et par mon alimentation, énergie de la terre, fabriquer une énergie qu'ils appellent le jin aki, qui va me permettre d'utiliser cette énergie pour travailler, danser, chanter, faire du sport, enfin, faut vraiment vivre ma vie sans prendre dans le capital originel. Voilà. Par contre, le capital originel va quand même, obligatoirement, même avec une grande hygiène de vie, va diminuer progressivement quand même. Et le fait d'avoir donc de fabriquer ces énergies au quotidien, notamment c'est là qu'on voit l'importance de l'énergie des poumons. Et là, en sortie de crise du Covid, il y aurait tellement à dire sur la vision du poumon en médecine chinoise, donc énergie de l'air, qui va se mélanger par tout un système qu'on appelle les trois foyers, mais ça je peux pas vraiment, voilà, qui correspond à un système cardio-pulmonaire, digestif et génito-urinaire, et mélangé à cette énergie raffinée de la terre, les organes vont faire tout un travail, et ces énergies du ciel et de la terre vont vraiment être mélangées pour former une énergie qu'ils appellent Zenshi, qu'ils appellent cette énergie, ça veut dire on l'appelle l'énergie correcte, l'énergie droite, et c'est elle qui circule dans nos méridiens et qui va animer nos organes et nos viscères. Et donc, c'est vraiment, on vit à l'intérieur d'une très grande usine énergétique et que c'est nous qui perturbons ces systèmes par notre alimentation, par nos modes de vie, notamment la toxémie. Hein, c'est pas toi qui es naturopathe que je vais apprendre ça, hein, avec notamment bah, toutes les drogues diverses, hein, tabac, alcool, drogue, qui je trouve qui prennent des proportions de plus en plus importantes. Et puis pour eux, la plus grande perturbation du système des méridiens, c'est vraiment notre monde émotionnel, notre monde intérieur. Et puis donc ça, c'est ce qu'ils appellent le jing. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent le shen. Le shen, pour eux, c'est le mot qui veut dire l'esprit. Quand ils parlent de l'esprit, ils parlent de shen, c'est la conscience. Et c'est intéressant que l'idéogramme du shen fait allusion notamment aux trois luminaires que sont le soleil, l'étoile et lune. Et pour eux, ils disent que nous sommes évidemment aussi extrêmement interconnectés avec ces énergies de l'univers, ces énergies cosmiques. Et donc, ce shen, donc, c'est ma conscience, et on peut dire ma lumière, hein, et donc qui peut aussi perturber le système énergétique. Et s'il n'y avait que le jing, et s'il n'y avait que le shen, rien ne se passerait. Et qu'est-ce qui anime ce système? Eh bien, c'est ce chi. Hein, le mot est très difficilement, faut surtout pas le traduire par énergie, c'est le mot que j'utilise, mais théoriquement, on peut pas dire ça, il est intraduisible, on parle plutôt de souffle. Et ce chi, donc, il a deux manifestations, il a ce qu'on appelle un chi qu'on appelle nourricier, c'est-à-dire que dans la tradition chinoise, on explique que l'énergie, ce chi nourricier, qu'on appelle yong en chinois, va circuler par tranches de 2 heures dans nos méridiens, c'est-à-dire, par exemple, que tous les jours, à 3 heures du matin, heure solaire, attention, ça c'est important, eh bien l'énergie, la vague énergétique va animer le système poumon pendant 2 heures, ensuite ça va passer dans le gros intestin pendant 2 heures, puis dans l'estomac, puis dans la rate, dans le cœur, puis dans l'intestin grêle, puis dans la vessie, puis dans le rein, puis dans 2 fonctions un peu spéciales qu'on appelle le ministre du cœur triple réchauffeur, et puis entre 23h et 1h matin, ça va être dans la vésicule biliaire, enfin dans le foie. Donc ça c'est ce qu'on appelle le cycle de l'énergie yon, qui est un cycle, ils appellent ça le cycle circadien, et qui est donc très très relié, on voit bien, à jour-nuit. Et si, par exemple, je suis réveillé tous les jours à 3h du matin en ce moment, moins 2h, eh bien, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre énergétique dans l'énergie du foie, que ça bloque un peu, et c'est pour ça que je suis réveillé. Et donc, ça, c'est ce qu'ils appellent l'énergie yong, l'énergie nourricière. Et donc, toute ma vie, les organes sont nourris par tranches de 2 heures. Et puis ensuite, il y a une autre énergie qu'on appelle l'énergie Wei, qui est l'énergie défensive, qui est vraiment, on peut dire, l'émanation de notre système immunitaire dans la pensée occidentale, qui, elle, ne circule pas dans les méridiens, elle est la journée autour de notre corps, elle est vraiment, elle se balade partout, et la nuit, elle va rentrer par un point qui est sous la cheville, et elle va venir veiller nos organes la nuit pendant qu'on dort. Et donc, on est interdépendant, donc le Qi a 2 fonctions, une fonction nourricière et une fonction défensive. Voilà. Et c'est ce chi qui va animer, c'est vraiment mon corps, entre le jing, avec tout ce que je t'ai raconté, et avec en même temps le chêne. Et donc, on voit bien que je suis un corps non pas de matière, et c'est passionnant de voir que la physique moderne, auquel je me passionne beaucoup, la physique quantique, est de plus en plus en train de nous dire que nous sommes que du vide, hein, et qu'on paraît que nous sommes composés que d'1% de matière, et que nous sommes avant tout un corps de vibration, un corps, on parle beaucoup d'électromagnétisme, si tu vois. Et donc, les Chinois, eux, c'était leur vision depuis 4 ou 5 000 ans. Donc vraiment, c'est tout San Pao, pareil, que ça soit dans le Qigong que j'enseigne ou dans l'équilibration de notre patient, nous devons donc vraiment avoir toujours cette notion derrière des San Pao, donc le Jing, et notamment comment nous devons permettre à ce que les gens refabriquent tous les jours vraiment. Et c'est pour ça que moi je travaille en réseau, et c'est pour ça que j'étais très heureux de ta proposition avec des naturopathes, avec, hein, avec des gens qui ont chacun leur spécialité, parce que l'alimentation dans la médecine chinoise est absolument fondamentale pour eux, ils la mettent au cœur du système. C'est pour ça que quand je faisais mes études d'ostéopathie, la rate, parce que les Chinois ne dissocient pas rate pancréas, on passe très peu de temps sur la rate, alors qu'en médecine chinoise, ils disent qu'elle est la racine du ciel postérieur, c'est-à-dire que la rate et le pancréas sont au cœur du système, et c'est elle qui va jouer un rôle majeur dans l'assimilation de ce qu'on mange, et qui pour les Chinois a du trouble, et qui va devoir être transformée en clair par le couple entre l'estomac, la rate et le pancréas, pour devenir une énergie noble, qui va venir se mélanger à l'énergie noble transformée par les narines et le poumon pour que cette énergie de l'air soit purifiée. Et ces énergies qu'ils appellent raffinées, du ciel et de la terre, vont participer, ce que je te disais, à la fabrique de cette énergie acquise qui va me permettre, eh bien, de fonctionner d'une façon écologique et d'être en bonne santé.
Et toi, concrètement, en cabinet, tu reçois quel type de personnes en général ?
Alors, de par mes spécialités entre l'ostéopathie et donc la médecine chinoise, je reçois absolument, j'ai envie de dire, tout type de pathologie. Je suis de plus en plus surpris de voir qu'on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir en première intention. Mais j'ai envie de dire que ça peut être, bien sûr, comme chez ostéopathe, bien sûr, énormément de problèmes de dos, hein, on sait bien, hein, voilà. Mais de par ses spécialités, bah de plus en plus de gens viennent nous voir énormément pour des problèmes digestifs, pour des problèmes intestinaux, pour des problèmes de circulation, pour des problèmes gynécologiques, pour des problèmes après de migraines, pour des problèmes d'acouphènes. C'est vraiment, moi en plus, je sais pas à quoi c'est dû, mais peut-être j'attire aussi pas mal de gens qui sont dans de grandes difficultés émotionnelles, psychologiques, relationnelles, et donc c'est pour ça que j'ai aussi créé des réseaux où je suis, voilà, autour de moi des équipes, soit en psychothérapie corporelle, parce que moi j'aime bien que ça passe par le corps, ou sinon les gens en psychothérapie simple, tu vois, donc je te disais des naturopathes et tout, parce que je pense fondamentalement, et c'est pour ça que j'apprécie énormément ta démarche que je voulais soutenir, que seuls nous ne sommes rien, et que nous devons vraiment nous inscrire dans un spectre thérapeutique, et vraiment travailler en réseau, et chacun dans sa compétence. Voilà, j'accueille aussi beaucoup d'enfants par l'ostéopathie, mais parce que je traite peu les enfants en médecine chinoise, de fait, parce que moi en plus, je suis acupuncteur, donc en plus, bien qu'on pourrait travailler en digitoponcture, mais quand même, le travail de l'aiguille est quand même vraiment extraordinaire. Et donc, voilà un petit peu toute la population que j'attire. Et puis, j'essaye humblement, en donnant beaucoup de cours hebdomadaires, en animant beaucoup de stages en France. Là, j'ai mis en place une formation spécifique pour des thérapeutes, et j'ai 22 thérapeutes qui travaillent avec moi depuis 3 ans pour se former au Qigong et pour les initier au fondement de la médecine chinoise et de la philosophie chinoise, où j'ai des médecins, j'ai des ostéopathes, où j'ai des kinés, etc. Et donc, j'essaye en même temps, et puis pour les gens, les gens un peu, voilà, j'essaye de donner des cours de Qigong, parce que pour moi, c'est un outil extraordinaire qui m'a permis, moi en tous les cas, de me restaurer, j'ai envie de dire, comme je dis en rigolant, du sol au plafond, parce que j'ai fait 25 ans de foot sans jamais un enterrement. Vraiment, j'ai eu, voilà, une hygiène de vie catastrophique pendant des années, et quand je suis arrivé chez mon maître c'était en 93, j'étais vraiment en très mauvaise santé, vraiment sur tous les niveaux, et je suis émerveillé en 24 ans comment j'ai pu restaurer ma santé, et que j'essaye humblement, vraiment, de faire partager cette passion, et de voir Je te donne un exemple quand même incroyable. Dans l'année dernière, en débutant, j'ai vu arriver une femme asthmatique depuis l'enfance. Mais quand je dis asthmatique, vraiment, une femme qui était vraiment très, 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 vraiment gravement malade, avec des crises d'asthme, notamment en automne et en hiver. En un an de Qigong, elle s'est totalement guérie de son asthme, quoi. Mais totalement guérie. Et ça, c'est des mécanismes qui dépassent même l'entendement. Toujours est-il qu'elle me dit, écoute Jean-Michel, c'est incroyable, elle a arrêté tous ses traitements. Et comme pareil, j'ai vu des gens venir voir un Qigong, ne plus avoir d'hypertension, etc. On voit bien donc que ce Qigong, ce Tai Chi fait partie aussi de ça, quoi. Mais au cabinet, comme beaucoup, les demandes sont très, très variées, quoi. Vraiment. Et même des fois, elles me sidèrent. Par exemple, des gens viennent nous voir pour des problèmes de peau. Et bon, moi qui ai été guéri par une séance, par exemple, beaucoup de psoriasis, beaucoup d'eczéma, et où on peut avoir des résultats vraiment intéressants. Mais là, des fois, il faut justement s'appuyer sur d'autres pratiques alternatives, quoi.
Et justement, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des problématiques sur lesquelles c'est particulièrement efficace par rapport à d'autres ?
J'ai envie de dire, et sans voilà, en restant très humble, hein, toujours dans ma pratique, hein, parce qu'il faut pas se leurrer, on peut avoir aussi des échecs, etc. Je suis quand même toujours, parce que pareil, l'ostéopathie biodynamique que je pratique est une ostéopathie, c'est beaucoup inspiré des pères fondamentaux de l'ostéopathie comme Monsieur Sutherland ou Roland Baker et tout, où on travaille aussi avec les forces de santé qui s'appellent l'homéostasie. Et je dois dire vraiment. Que, en fait, je pense que ce qui est important, c'est peut-être ce qui fait pour moi une des grandes forces et qui fait que moi, je reçois les gens une heure. Parce que je me suis aperçu que moins, c'est pas possible. Et que, justement, dans les outils du bilan énergétique chinois, que sont l'anamnèse, on fait une anamnèse absolument extrêmement poussée avec des questions où, par exemple, on va, par exemple, justement, essayer de comprendre comment la personne s'adapte au climat. Est-ce que la chaleur vous est préjudiciable? Est-ce que vous êtes plutôt frileuse, etc.? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous transpirez? Et donc, en poussant cette anamnèse vraiment très très loin, on rentre petit à petit dans l'intime des gens et dans la compréhension. Et justement, la finesse de la médecine chinoise, c'est pour que les gens qui vont écouter comprennent, c'est de comprendre que chaque organe gère tout un ensemble de structures. Si je prends l'exemple du foie, eh bien, le foie, la vision du foie par la pensée chinoise vis-à-vis du foie occidental, on est à des années-lumière. Et donc, les Chinois vont nous dire, par exemple, que le foie va gérer les ligaments et les tendons, que le foie va gérer les yeux, que le foie va gérer la colère, que le foie va gérer l'imaginaire, etc. Et que petit à petit, dans l'anamnèse, et que les gens vont par exemple nous amener 50 signes qui dépendent tous, par exemple, d'une montée du yang du foie. Et donc, ils vont avoir des migraines ophtalmiques, ils vont avoir des vertiges, ils vont avoir des acouphènes, ils vont avoir des douleurs tendineuses, etc. Et comment tout cet ensemble de signes cliniques qui pourraient nous noyer complètement et en disant comment je fais, eh bien, simplement en régulant cette étiopathogénie qui est par exemple une montée du yang du foie, eh bien, on va avoir la surprise des fois, mais un mois après, comme souvent j'aime bien laisser 3 semaines entre 2 séances, eh bien, que peut-être, j'ai même vu que peut-être des fois, que la totalité de ces signes ont disparu. Parce que tout s'était sous-tendu par cet déséquilibre d'une montée du yang du foie, etc. Et donc, c'est ça qui m'émerveille chaque jour. Et même des fois, moi-même, je regarde ça avec mes grands yeux vraiment d'émerveillement et de me dire, waouh! Et de comprendre que c'est pas moi qui ai obtenu ça. C'est pour ça que je pense que ce qui est important, j'ai toujours revendiqué que je ne suis pas responsable des résultats. Moi, je mets en œuvre une politique, je mets en œuvre des moyens. Voilà, comme toi en naturo, hein, je vois bien comme ce que je connais, j'ai des bons copains naturaux, et je crois vraiment que ce qui est fondamental, justement, c'est de restaurer le terrain. C'est vraiment de restaurer la santé. Et c'est pour ça que peut-être, j'entendais, hein, le terme bien-être me va très bien, hein, y a aucun souci, mais je ferais j'aurais envie de pousser le curseur un peu plus loin, et même si ce mot peut attirer les foudres, mais je crois, et ça c'est les textes fondamentaux, que la médecine n'a pas le monopole de la santé, et que la santé est quelque chose de fondamental, la prévention est quelque chose, et dans la pensée chinoise, la prévention joue un rôle absolument fondamental pour eux. Là actuellement, je suis en train de me former à la climatologie, et ce qu'on appelle à la chronoacupuncture, avec une femme extraordinaire qui s'appelle Laura Legge, et de comprendre par exemple que les six climats fondamentaux extérieurs, je vous dis que sont le froid, la chaleur, le vent, l'humidité et tout, selon leur intensité, selon mon état énergétique, vont pénétrer à l'intérieur de moi et vont venir gérer des pathologies. On va avoir des pathologies, tu vois, en médecine chinoise, par humidité. Un des grands signes, par exemple, ça va être les tan, en médecine chinoise, c'est les glaires. Quand j'ai une alimentation trop humide ou que je vis dans des lieux un peu trop humides, voilà, eh bien, je vais fabriquer du tan, c'est-à-dire des glaires qui vont être les glaires ORL, tu vois, qui vont encombrer le nez, etc. On va avoir des glaires digestives, des lenteurs digestives, des ballonnements. On va avoir chez les femmes des glaires gynéco qui vont être notamment les leucorrhées, les pertes, etc. Et ils disent même qu'après, ça va finir par boucher, ils disent, les pures ouvertures du cœur et qui fait que je vais avoir un peu des glaires, psychiques, tu vois. Et donc, comment, par exemple, pour cette personne, en lui retravaillant sa rate, parce que là, c'est la grande pathologie de l'humidité, c'est la rate, comment en lui retravaillant l'alimentation, et c'est là où, tu vois, par exemple, et ben, moi, je suis content d'avoir autour de moi des naturopathes pour dire allez vraiment voir pour équilibrer ou voilà, et en même temps faire peut-être un travail psycho-émotionnel parce que c'est des gens peut-être qui sont trop tournés dans le passé et tout, enfin tu vois, et de fil en aiguille, petit à petit, eh bien on va être émerveillé de voir que des fois, eh ben la séance suivante, voilà, on peut avoir vraiment des fois 100% de résultats sur les pathologies. Ou alors, on va avoir que 50%. Et à la deuxième séance, dans la catamnèse, à nouveau dans notre interrogatoire et dans notre observation et dans la prise des pouls et de la langue, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui n'a pas lâché? Qu'est-ce que j'ai pu? Et puis, pareil, eh bien, faut, comme tout le monde, et puis il y a des fois, il y a zéro résultat. Donc là, c'est, on reprend tout à zéro et on se dit vraiment... on n'a rien compris. Et je pense peut-être aussi, ce qui est vraiment important, c'est ce que j'appelle à ce moment-là aussi savoir, et moi, il y a des tas de gens, par exemple, que je ne prends pas en soin et que je renvoie vers leur médecin traitant parce que pour moi, le problème, il n'est pas énergétique et qu'il y a absolument besoin de refaire un bilan auprès de leur médecin traitant. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Il faut savoir être sûr où on se situe dans le spectre thérapeutique et ne pas se prendre pour quelqu'un qui a la toute puissance, quoi. Voilà à peu près donc comment je peux pratiquer. Donc quand ta passion arrive, la première chose c'est vraiment cette anamnèse qui peut durer des fois une demi-heure, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions à poser. La médecine chinoise parle des 16 temps fondamentaux de l'examen de l'interrogatoire. Et donc, on interroge vraiment de la douleur jusqu'à tous les systèmes digestifs, cardiaques, etc. Tous les systèmes, des cinq organes d'essence, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, etc. Tu vois, puis après, un peu quelques questions sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect psychologique, pour avoir vraiment une vision d'ensemble. Ensuite, la personne s'allonge. Il y a un temps d'observation très important. On touche pas, on regarde avec les yeux. On peut sentir aussi, voilà. Et puis après, cet outil incroyable, mais qui est très, très difficile et qui est pour nous tous, hein, même, la prise des pouls est quelque chose de subtil et de difficile parce que sur les pouls chinois, on peut exactement avoir une idée des 12 organes viscères fondamentaux et la langue. Vraiment, il y a des traités entiers. Moi, j'ai des livres de 4 tomes sur la langue et en tirant la langue, on peut avoir vraiment un état fondamental de nos organes. On peut dire que la langue exprime l'interne, quoi. Et avec tout ça, eh ben, on va faire une stratégie thérapeutique. Tu vois, soit le massage traditionnel chinois, soit par les aiguilles, et puis proposer de la pharmacopée chinoise, proposer des modifications diététiques. Voilà à peu près comment je pratique.
Et tu disais qu'une séance dure 1 heure, et en général, tu fais combien de séances avec une personne?
Alors, moi, personnellement, mon engagement thérapeutique, souvent, j'aime bien, ça c'est quelque chose, ça c'est l'observation, et c'est très personnel. Ce que j'ai compris personnellement, c'est que j'ai eu la chance d'avoir vraiment de grands formateurs et je les bénis encore aujourd'hui et en ostéopathie aussi, etc. Moi, je pense que pour avoir une réponse concrète, il faut au moins 21 jours entre 2 séances pour que les choses se réparent. On dit que la première semaine, c'est souvent sur le plan physique, énergétique, la deuxième sur le plan émotionnel, la troisième sur le plan de l'esprit, qui est plus lent à bouger. Donc moi, en général, j'aime bien m'engager, j'essaie d'expliquer à mes patients que j'aime bien avoir 3 séances de fond, hein, entre 3 semaines et 1 mois d'écart, pour vraiment faire bouger les lignes. C'est pas en une séance, faut pas non plus rêver. qu'on va tout régler, quoi. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça. Et après, ça, c'est la vision extraordinaire, puisque chaque saison est liée à un organe. Ce qu'il faut qu'entendre, c'est que le printemps, et alors les dates chinoises ne sont pas les mêmes que nous, les solstices et les équinoxes marquent les milieux de saison. C'est-à-dire que pour les Chinois, le printemps démarre le 4 février et se termine autour du 4 mai, et le 21 mars est le milieu du printemps. Et cette période de 3 mois est liée au foie. Et donc, les Chinois disent qu'on va renforcer, traiter particulièrement un organe pendant sa saison. C'est pour ça que quand j'ai fait 3 séances de fond, après, je leur propose plutôt que de venir n'importe où, mais c'est pas, je leur donne pas un rendez-vous, hein, c'est eux, à eux de vraiment se motiver. Et j'aime bien à ce moment-là leur faire une séance au printemps parce que ça me permet de profiter de la saison au ciel pour renforcer l'organe foie. En été, on peut dire de début mai à début août, c'est la période du cœur, et en ce moment, on est dans le cœur. Ensuite, on a la période du poumon qui est l'automne, et puis on a la période des reins. Et les Chinois nous parlent qu'entre chaque, il y a une saison. Les 18 derniers jours de chaque saison, c'est ce qu'ils appellent une période intersaisonnière, où c'est l'énergie de la rate pancréas qui, comme elle est au centre, qui va permettre le passage d'une saison à l'autre. Et les Chinois nous expliquent que chaque organe est lié à un viscère. On appelle ça son émonctoire. Par exemple, le foie est relié à la vésicule biliaire. Un foie ne peut pas fonctionner si la vésicule biliaire n'est pas correcte. Le cœur va être relié à l'intestin grêle. La rate, on a dit, avec l'estomac. Le poumon avec le gros intestin. Et le rein avec la vessie. Et donc, en général, eh bien, il y a peu de gens que j'arrive à motiver comme ça, faut dire, hein. Mais par contre, ceux qui ont compris ça, eh bien, ces gens-là, notamment avec la climatologie que je fais maintenant et avec la montée d'un thème où on regarde comment le ciel de naissance et les saisons et les, etc., mais je vais pas entrer dans les détails parce que c'est un peu complexe. Et je suis quand même content, j'arrive petit à petit à avoir des patients qui viennent me voir une fois par saison. Et vraiment, bah, ces gens-là, forcés de constater pour eux, eh bien, qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont plus jamais malades. Et vraiment. Et ces gens-là me disent, écoute, Jean-Michel, vraiment, les hivers, je sais pas ce que c'est qu'un rhume, ce que c'est qu'une grippe, j'ai plus de douleur et tout. Mais parce que ces gens-là prennent soin d'eux. Tu vois, c'est ça qui est vraiment important. Mais si je dirais que des patients comme ça, ça va représenter 1 patient sur 10, pas plus, qui ont compris de ce rôle de la prévention et de vraiment de prendre soin d'eux, hein, et c'est ce que tu fais et c'est ce qu'on essaye humblement de faire. Et c'est très très dur, les gens, parce que moi j'ose dire, hein, que c'est comme une forme de manque d'amour et que les gens ont quand même une facilité à se faire du mal plutôt qu'à se faire du bien par les drogues qu'ils consomment, par une alimentation désastreuse, par une hygiène de vie, par notamment ce qui est vraiment un sacré problème, c'est le sommeil aujourd'hui. Moi, je suis confronté de plus en plus, et j'ai des très, très bons copains médecins homéopathes qui sont vraiment confrontés à des gros, gros, gros problèmes de sommeil. Il y a des statistiques parlent de 25 millions de Français qui dorment pas, quoi. Mais c'est pas étonnant vu ce qui se passe. Par exemple, en médecine chinoise, le yang, si je pouvais symboliser le yang, c'est la pédale d'accélérateur, c'est le système orthosympathique de notre système. Et donc, le yang, c'est le stress, c'est bouger, courir, et yang, 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 tu vois. Et par exemple, les gens qui vont faire du sport le soir, vis-à-vis de la médecine chinoise, je me permets le mot, c'est une connerie sans nom, parce que le soir, enfin, à partir de 18h, 19h, on devrait commencer à s'apaiser, à rentrer à l'intérieur de soi. La télé, pareil, le soir, beaucoup de télé et l'ordinateur, c'est très, très, très yang aussi. Et donc, c'est pas étonnant que ces gens ont du mal à dormir. On dit que pour dormir, il faut que le yang se retire, comme la mer se retire, et que le yin reprenne toute sa place, quoi. Par contre, le matin, on devrait se lever tôt, parce que c'est la période du foie, hein, vraiment, parce qu'en fait, il y a une analogie entre les saisons et une journée. Là, on peut dire que de 6h du matin à 9h, 10h du matin, c'est la période du foie. Et donc, si les gens n'arrivent pas à se lever, par exemple en médecine chinoise, on sait que leur foie, il va pas bien. Parce que leur foie, si leur foie était en bonne santé, il devrait pouvoir se lever très facilement, se dynamiser, se mettre vraiment, voilà. Ensuite, on peut dire de 10h à, tu vois, et donc toute cette période, après il y a une période qui est notamment autour de midi, toute cette période du cœur, et c'est là où il faudrait surtout pas aller faire du footing en plein cagna, parce que c'est la période du cœur, et c'est plutôt un moment où on devrait étudier, où on devrait faire de la méditation, enfin, etc. Tout ce qui est la fin d'après-midi, c'est tout ce qui est lié au poumon, tout ce qui va aller vers le coucher du soleil et tout. Et puis la nuit, c'est l'énergie des reins qui régénère. Et ce que je voulais aussi rajouter, si je peux me permettre, la médecine chinoise, qu'on parlait de cette lampe à huile au début de l'entretien, eh bien, de comprendre que pour les Chinois, les reins, c'est la batterie de notre corps fondamentale. Tout le yin et le yang du corps est détenu par les reins. On peut dire que cette lampe à huile, elle est sous l'égide des reins. C'est pour ça qu'on dit que les reins sont les piliers du ciel antérieur. C'est le pilier de l'énergie innée. Donc ça, c'est vraiment. Et que ce qui est fondamental, et ça, j'essaye de me bagarrer, c'est comment je me repose dans ma vie. Et s'il y a bien une période où on devrait se reposer, c'est à peu près décembre, janvier, au cœur de l'hiver, comme les marmottes, comme les ours, comme je dis, vraiment. Et là, pour vraiment re-ensemencer l'énergie des reins. Et là, tu vois, je te parle avec un ordinateur. Si j'enlève ce qu'il relie donc à l'électricité, je peux avoir le plus bel ordinateur ou le plus beau téléphone portable. Si je le remets pas en charge, il va s'arrêter. Eh bien, c'est l'énergie des reins. Et les reins, tu vois, par exemple, gèrent les structures les plus fondamentales du corps. Et ça, j'aimerais que les gens l'entendent. Les reins gèrent les os. Les reins gèrent les articulations. Les reins gèrent les moelles, moelle osseuse, moelle épinière, moelle du cerveau. Les reins gèrent les dents, les reins gèrent l'audition. Eh bien, quand on regarde les pathologies de notre société moderne aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est beaucoup la pathologie d'une société qui est fatiguée, qui ne veut pas se reposer, qui est dans le vite, 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 vite. Et toute cette médecine chinoise et cette philosophie nous invite vraiment à vivre. On ne peut pas vivre pareil au 21 juin et au 21 décembre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir les mêmes horaires. Ce n'est pas possible. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, eh bien, j'ai bien peur qu'on continue à aller dans le mur. Et moi, je vois ce qui me surprend de plus en plus, des gens, et ça me touche beaucoup, des gens de 40 ans, de 50 ans qui commencent à être en très, très, très mauvais état. On voit le nombre d'AVC, le nombre de pathologies cardiaques chez les gens de 50 ans. Parce qu'en médecine chinoise, l'eau des reins, on dit, doit contrôler le feu du cœur. Si je ne recharge pas la batterie, eh bien, le cœur est en danger. Ça, c'est vraiment tout ça, la pensée chinoise et la compréhension de leur médecine traditionnelle.
En école de naturo, un de nos formateurs nous avait dit un peu la même chose, que beaucoup de professionnels remarquaient que la vitalité des gens avait énormément baissé et que des personnes jeunes aujourd'hui avaient une vitalité beaucoup plus basse que des personnes âgées des générations précédentes.
Bah, tout à fait. Tu sais que les statistiques sont très claires. Quand il y a des statistiques qui sont faites régulièrement, qui est les statistiques des Français en bonne santé. Je dis bien en bonne santé. L'espérance des Français en bonne santé aujourd'hui vient encore de diminuer à 62 ans. C'est-à-dire, si on enlève tous les gens malades et qu'on garde que les gens en bonne santé, cette espérance, c'est 62 ans. C'est terrible, c'est pathétique. Alors, on est toujours des fois étonné d'entendre ces vieux sages chinois qui ont vécu même jusqu'à 120 ans, vraiment, etc. Mais, parce que vraiment, nous avons ce potentiel. Nous sommes, j'ai envie de dire, nous naissons pour être en bonne santé. Nous avons un système qui est connu de la physiologie occidentale qui s'appelle l'homéostasie. Notre corps, là, pendant que tous les deux nous parlons, nous avons des milliers de réactions biochimiques, cellulaires, hormonales et tout, qui nous maintiennent en bonne santé. Et nous avons le droit de vieillir en bonne santé. Vraiment. Je crois que nous ne sommes pas condamnés à Alzheimer, que nous ne sommes pas condamnés à toutes ces pathologies, à l'ostéoporose, comme me dit un de mes formateurs, à l'ostéomorose, etc. Et que franchement, je pense que, par exemple, pour te dire, mon maître de Qigong souhaite que par la pratique du Qigong, nous retrouvions le corps du bébé. C'est-à-dire comment, en vieillissant, à 70 ans, etc., nous pouvons avoir une souplesse identique à un petit enfant. Et un état d'esprit, en même temps, qui est vraiment, on n'est pas condamné à la sclérose et à être vraiment vieux ronchon, etc. et tout. Nous pouvons vieillir d'une façon élégante, j'ai envie de dire, et humblement dans mon enseignement du Qigong et du Tai Chi, et dans mon cabinet par la pédagogie, j'essaye d'expliquer aux gens qu'on peut, ce que j'appelle, vieillir hors de l'espace-temps, c'est bien dans l'espace quantique, comme si le temps n'avait plus de prise sur nous. Bien sûr qu'on va mourir, et voilà, et ça c'est clair. Quand la lampe à huile, tu vois, les Chinois disent, quand il n'y aura plus d'huile dans la lampe, eh bien, le corps va s'éteindre. Voilà, mais on a le droit de vivre sa vie dans de bonnes conditions. C'est terrible de vieillir, perclus de douleur, à plus pouvoir avancer, multi-opéré, et des prothèses de hanches et des machins. Et donc, je crois que la prévention, et c'est peut-être ça mon message aujourd'hui, et j'aimerais tellement que ça soit entendu à haut niveau. Quand on voit en sortie de Covid, là encore, je pense que le Covid a quand même faux. Je pense toucher beaucoup de gens qui étaient hors sol, beaucoup de gens qui étaient en mauvaise santé. Le poumon est le porte, les Chinois nous expliquent que le poumon est le maître du qi, le poumon est le maître des souffles vitaux, et le poumon porte fondamentalement nos forces d'incarnation. Posons-nous la question pourquoi au niveau mondial nous avons été touchés. Et si on réfère même Antoine Béchamp, qui était un contemporain de Pasteur, et ça, tu le défends magnifiquement, c'est le terrain qui est fondamental, c'est pas le virus. Et que le virus ne prend du poids que si le terrain est faible et fragilisé. Et ça, les Chinois, vraiment, en parlent très bien avec cette énergie défensive dont je te parle, qui est mise partout à la frontière par le poumon, et la réserve de l'énergie défensive, c'est le foie. Le foie est le général en chef de notre système de défense. Le foie est le maître de notre système immunitaire. Tous les organes y participent, mais c'est le foie qui est responsable de la stratégie. Et quand tu vois aujourd'hui, et c'est pas moi qui vais juger ces gens, parce que moi j'ai eu quelques années, quand de 20 ans à 30 ans, où j'ai un peu picolé, ok, et vraiment je peux dire même beaucoup, et aujourd'hui avec le recul, je comprends pourquoi aujourd'hui, vraiment, prendre soin de son foie, c'est tellement important. Mais entre vraiment l'alcool, le tabac, et puis moi je vois de plus en plus beaucoup de drogues, hein, de consommation de drogues. Et donc notre système immunitaire est complètement désorganisé, quoi. Et donc c'est la porte ouverte, effectivement, alors à ce moment-là, la pénétration des virus, quoi. Ok ? Bon, donc ça c'est important, non ? Et par exemple, dernière chose, tu vois, le poumon est couplé avec le gros intestin en médecine chinoise, et cette crise du Covid, et toi, ça je sais qu'en naturo, puisque j'ai pu discuter avec des gens comme moi là, l'importance du microbiote intestinal, dont on sait que 95% du système immunitaire est dans notre ventre. Et les Chinois avaient associé le gros intestin au poumon, qui est le maître du qi, et les Chinois disent, ils ont même une phrase, le sage est celui qui est bien dans son gros intestin. L'importance du microbiote intestinal, et les chercheurs, là, je lis beaucoup de choses, je me passionne aussi pour les neurosciences. Ils sont en train de dire que dans les 2-3 ans à venir, c'est peut-être là où on va faire les plus grandes découvertes sur le microbiote intestinal. Donc, l'importance de ça, quoi. Et donc, pareil, la malbouffe, on le sait, notamment la malbouffe, fracasse l'intestin grêle et le gros intestin. Fracasse. Et vraiment, et la rate, pareil, hein, toute une rate qui est humide, trop froide. Par exemple, un des grands secrets de la médecine chinoise, je te le dis, eux, pour eux, c'est manger chaud. Quand je suis allé en Chine un mois avec mon maître, en un mois, on n'a jamais, jamais, jamais mangé quelque chose de froid. Jamais, tu vois. Et toujours, toujours manger chaud, par exemple. Alors, mon maître, lui, il devient plus nuancé. Il dit que l'été, quand il fait très, très chaud, c'est là, c'est bien de manger un peu cru. Et comme par hasard, c'est si on respecte une agriculture intelligente, c'est là où la nature nous donne les salades, les fruits, les arbres nous donnent les fruits et tout. Mais pendant un mois en Chine, et on a tous perdu 5-6 kilos pendant un voyage en Chine. Hein. Voilà, tu vois, c'est peut-être tout ça la vision de la médecine traditionnelle chinoise.
C'est très riche et vraiment intéressant. Et je vois beaucoup de parallèles avec la naturopathie, enfin, ce qui est logique. Hein, de toute façon, c'est la médecine traditionnelle européenne.
Tout à fait. Et que vous avez une grande place à jouer, et c'est pour ça, j'insiste, et c'est pour ça que j'ai vraiment été heureux de participer à ta proposition, parce que je crois que voilà, nous devons monter en réseau. Hein, moi, j'ai mon fils qui vient de finir, comme je te disais, qui vient de finir ses études, qui va venir s'installer sur Lyon. Et je lui ai dit d'ailleurs voilà que c'est fondamental de participer et de s'inscrire dans un réseau pour qu'on ait justement une réponse, sans oublier, j'insiste encore parce que pour moi c'est fondamental, sans oublier, hein, et de se détourner de la médecine donc occidentale, ça c'est absolument fondamental. Il faut pas faire n'importe quoi parce qu'on a vu aussi des catastrophes, hein, et qu'il faut savoir exactement où est notre place et de pas s'acharner, hein. Je donne toujours un exemple qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est venu me voir, que je suivais et tout, puis qui a eu une prothèse de hanche, puis après au bout de 2 ans de prothèse de hanche, il est venu me voir avec des douleurs dans sa prothèse et tout ça. J'ai fait une première séance et 3 semaines après, il vient me revoir, il me dit « Jean-Michel, ça n'a rien donné ». Et là, je sais pas, comme une espèce de flair, j'ai dit « Écoute, je pense qu'il faut revoir ton médecin, refaire le point et tout ». C'était un cancer de la gorge foudroyant avec une douleur projetée dans sa hanche. Et il est parti même pas un mois après. Et donc, si moi, je m'étais acharné en disant « Non, tu vas voir, je vais te régler », non, il faut exactement savoir où nous placer dans le spectre thérapeutique. Et ça, c'est peut-être l'expérience du vieux thérapeute de 63 ans, parce qu'on voit hélas souvent des fois des jeunes, parce qu'ils ont été formés, ils sont enthousiasmés et c'est magnifique à voir et tout, mais qui des fois peuvent oublier les fondamentaux, et faut pas passer à côté, quoi. Donc l'important, c'est chouette ce que tu fais, vraiment je te remercie, et l'importance qu'on travaille tous ensemble, voilà. C'est peut-être, moi je suis à installé à Albertville. C'est peut-être le regret que j'ai. J'ai pas réussi vraiment à fédérer des gens autour de moi. J'ai envoyé des tas de gens à droite, à gauche. Jamais eu un retour, mais jamais quelqu'un m'a appelé pour me faire un retour ou m'envoyer une petite lettre, etc. C'est pas grave. Du moment que, en espérant que les gens y soient allés, hein. Par exemple, je vois un médecin gynéco qui commence à m'envoyer des gens, par exemple. Voilà, on sait que de plus en plus des pratiques alternatives commencent à intégrer le milieu hospitalier, par exemple en oncologie, ou on voit qu'il y a des choses qui bougent et que je pense que on pourrait tous en même temps aussi travailler main dans la main, quoi. Vraiment. Parce que, on a des lectures différentes, mais qui sont, à mon avis, tellement complémentaires, parce qu'un humain reste un humain, voilà, et que je pense que ça serait bien de faire comme ça. Voilà.
On est d'accord. Et est-ce que tu peux décrire un peu ce qu'est une semaine type pour toi? À quel moment tu fais des consultations en cabinet? Qu'est-ce que tu fais d'autre?
Oui, alors moi, parce que depuis beaucoup d'années, j'ai un secrétariat téléphonique, donc j'ai souhaité que pour eux, ça soit simple à prendre les rendez-vous, donc j'ai un planning. Donc, pour donner une semaine, le lundi, je consulte le matin et l'après-midi jusqu'à 16h30, et après, j'enchaîne par deux cours de Qigong, que je donne jusqu'à 9h le soir. Le mardi, je consulte de 8h à 10h et j'ai un cours de Qigong le matin. Après, le mardi et le mercredi, je consulte toute la journée. Donc, je vois, en général, quand j'ai une journée pleine, je vois 10 patients dans la journée. Je commence à 8h et je finis à 20h le soir. Voilà. Et puis, je ne travaille pas le jeudi. C'est mon jour parce que je pense qu'un thérapeute doit prendre soin de lui. Et donc, il y a longtemps que j'ai compris ça. Et donc, le jeudi, c'est un jour, ce que j'appelle le jour de ressourcement pour moi. Où je prends soin de moi, je prends soin des miens, voilà, c'est un jour où je fais du chant, du piano, est-ce que voilà, j'aime bien. Et puis après le jeudi soir, j'ai encore un cours de Qigong, et puis le vendredi, je consulte. Et puis souvent, c'est ponctué aussi par mes stages, hein, donc je donne des stages à Montpellier, je donne des stages en Bretagne, voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fermé mon école parce que ça devenait trop lourd pour moi et j'avais envie aussi, de prendre soin de moi et peut-être de moins travailler. Par contre, j'ai pas envie de prendre ma retraite parce que voilà, je sais pas ce que veut dire ce mot-là. Peut-être je travaillerai différemment, mais je suis étudiant encore. Je repars à nouveau dans une formation en embryocinèse, en ostéopathie biodynamique pendant 2 ans. Je continue des études de pharmacopée chinoise. Voilà, je crois que étudier, et de faire travailler sa mémoire, c'est anti-Alzheimer. Non. Donc, certains diraient que je travaille beaucoup, mais moi, j'ai pas trop l'impression. Mais par contre, à côté, j'ai une très grosse hygiène de vie. J'essaye, et c'est humble, ce que je dis, j'essaye d'être cohérent entre ce que j'enseigne et ce que je prône dans mon cabinet avec mon hygiène de vie. Je me verrais mal la clope au bec, tu vois, en train de souffler la fumée dans le nez de mon patient en lui disant, mais il faut arrêter de fumer, vous savez. Voilà. Mais c'est pas, voilà, j'essaye. Mes copains dans mon entourage m'appellent le druide, voilà, parce qu'effectivement, j'ai supprimé l'alcool, j'ai supprimé le café. J'essaye de vivre en fonction de tout ce que j'ai étudié pendant 40 ans. Et je dois dire, que ça me réussit plutôt bien au niveau de ma propre santé. Par contre, j'essaye d'être le témoin vivant de ça, tout simplement. Moi, c'est ce que j'appelle la cohérence. Et que c'est pas évident et que je n'y arrive peut-être pas tous les jours, mais j'essaye, peut-être que c'est l'âge aussi, tu vois, j'essaye de m'approcher de cette sagesse, en tous les cas, quoi.
C'est sûr que c'est pas toujours facile d'avoir une hygiène de vie idéale.
Oui. Mais... ouais, faut garder le plaisir. Faut garder le plaisir en même temps. Voilà. Rien n'est faux pour moi, ce que je dis aux gens, là, de boire de l'alcool c'est pas faux, de boire du café c'est pas faux, mais je pense que c'est où est le raisonnable, où est pas le raisonnable. Moi personnellement, quand j'ai compris les 110 fonctions du foie, 110 fonctions du foie, que c'est surtout le général en chef responsable de toute la stratégie de défense du corps, et ben j'essaye de tout faire, de tout mettre en œuvre pour pas le tabasser, quoi, pour pas le fragiliser. Et donc avec l'énergie des reins, je vous ai dit, n'oubliez pas, vraiment, n'oubliez pas d'avoir des espaces de rien, des espaces de silence, des espaces de contemplation, des espaces où vous ne faites rien. Mais quand je dis rien, c'est rien, même pas lire, rien, se reposer, se régénérer, parce que les reins, c'est la racine de tous les organes viscères du corps. Ça sera peut-être ça ma conclusion, quoi. vraiment, et espérons que le message passera, quoi.
C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup pour ce super partage. C'était vraiment très intéressant.
Eh ben, écoute, merci, en tous les cas, merci de ce que tu fais, et merci de cette chaîne de solidarité que tu crées, parce que je crois que je redis à nouveau, et que c'est une grande clé et qu'il faut être méprisant de personne et que tout le monde a sa place et que si ça peut participer à la santé de nos contemporains, ça sera, on n'aura pas perdu notre temps en tous les cas, quoi. Je suis militant, voilà, je me définis comme militant de la santé.
Ouais. J'aime bien ce terme.
Ok, bah écoute, en tous les cas, merci, merci de ces partages et de cet entretien, en tous les cas.
Merci Jean-Michel, au revoir. Merci pour votre écoute, j'espère que le podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le noter, le partager ou à me suivre sur Instagram @leLienPodcast. Cela m'aidera à le faire connaître. Merci et à la semaine prochaine.